Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui appelle les habitants à limiter leurs déplacements. L'Union de la gauche et Arnaud Montebourg qui rame, vous le verrez au téléphone. Et puis garde à vue prolongée pour l'ex-nageur Yannick Agnel.
Juste après le journal, deux débats. La présidentielle à 4 mois pile du premier tour, Valérie Pécresse poursuit sa percée et à 12h50, votre repas de Noël va-t-il vous coûter plus cher? RTL a mené l'enquête à deux semaines tout juste du réveillon.
La question du jour sur RTL.fr, justement, elle concerne Noël. Allez-vous limiter le nombre de convives? Vous dites non à 58%. Notre météo du jour, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonjour Claire.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Et 11 départements sont donc en alerte orange.
En effet, les conditions sont particulièrement agitées dans le sud-ouest avec des salves pluvieuses qui se succèdent et vont se maintenir jusqu'à samedi matin, donc des pluies abondantes hein, et puis également avec le redout en montagne et les fortes pluies, cela rend le manteau neigeux très instable, donc un fort risque d'avalanche mais aussi de crues et inondations en plaine, risque d'avalanche également bien présent dans les Alpes mais la neige va se transformer en pluie en plaine et sinon partout ailleurs, un ciel beaucoup plus variable, porteur d'averses mais de belles éclaircies qui vont se développer dans le nord-ouest, soleil en Méditerranée et pour les températures elles iront jusqu'à 14 degrés en Méditerranée.
Merci Claire, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et justement, pour commencer, direction le Pays Basque, sous les eaux ce midi. Denis Grandjean, bonjour, vous êtes à Bayonne pour RTL. La circulation est par endroits très difficile. La préfecture, d'ailleurs, appelle les habitants à limiter leurs déplacements.
Oui, d'ailleurs, Amandine, l'autoroute A63 est coupée dans le sens Espagne-France et tous les camions doivent passer, doivent sortir à Saint-Jean-de-Luz. Circulation très compliquée aussi à Bayonne, donc où je me trouve. Je me trouve exactement à quoi, 5 mètres de la Nive. Il y a la Nive qui traverse Bayonne, également la Dour. Alors la Dour reste pour l'instant dans son lit, mais la Nive sort par à certains endroits et juste en face de moi, j'ai 3 voitures qui sont complètement recouvertes par les eaux. La Nive est vraiment sortie au niveau des quais là et c'est compliqué également sur un parking juste derrière moi où il y a plusieurs voitures également qui ont été coincées par cette montée qui s'est amorcée ce matin. Alors un technicien que j'ai croisé tout à l'heure m'a dit de la mairie que la décrue était en train de s'amorcer mais pour l'instant ça stagne et il y a des vagues même sur la Nive en ce moment. Et il faut noter également qu'il y a pas mal de problèmes d'électricité avec 100 000 foyers qui sont pour l'instant dans le noir mais ça devrait revenir au cours de l'après-midi.
Denis Grandjean en direct de Bayonne pour RTL. On suit bien sûr tout cela de près avec vous. Des difficultés de circulation également signalées en Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu'en Rhône-Alpes en raison cette fois de la neige. Les poids lourds notamment sont interdits sur l'autoroute A39 entre Dijon et Lyon.
Le Covid est un nouveau record pour la dose de rappel.
710 000 injections pour la seule journée d'hier. Olivier Véran table désormais sur 20 millions de vaccinés pour Noël. On est aujourd'hui à 12 500 000. Encore faut-il des rendez-vous, diront certains. Eh bien, ils seront là, a promis ce matin sur RTL Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
Je sais très bien qu'il y a des Français qui aimeraient faire leur rappel aujourd'hui, qui ne peuvent pas encore. Je ne dis pas que c'est acceptable. Ce que je dis, c'est qu'on mobilise dans tous les sens pour qu'ils puissent avoir un créneau. On va rajouter 8 millions de créneaux de rendez-vous d'ici à début janvier. Ça veut dire que d'ici à début janvier, il y a 25 millions de Français qui auront pu se voir proposer un rappel.
Mais le 15 janvier, tout le monde n'aura pas sa troisième dose. Est-ce que vous allez repousser cette échéance pour avoir son pass sanitaire?
Encore une fois, Olivier Véran l'a dit, la date du 15 janvier, elle reste. Et c'est notre responsabilité, d'ici là, de mobiliser suffisamment pour que les Français concernés par l'expiration du pass au 15 janvier se soient vus proposer un créneau de rendez-vous.
Gabriel Attal, invité ce matin de Benjamin Sportouche sur RTL. Autre chiffre, ceux des fermetures de classes. On est ce matin à 3208 contre 4578 la semaine dernière. Le nombre d'enfants testés positifs au Covid, en revanche, lui progresse, Virginie Garin.
Oui, le taux d'incidence chez les 6-11 ans a dépassé 1000 en France. Il est deux fois plus élevé que dans le reste de la population parce que les enfants sont beaucoup plus testés depuis 15 jours, mais pas seulement. Comme ils ne sont pas vaccinés, le virus circule plus vite, il faut le rappeler. Le vaccin protège des formes graves et réduit de moitié au moins les risques de transmission. Alors depuis le début du mois à l'école primaire, les règles ont changé. On ne ferme plus une classe systématiquement quand il y a un cas. On teste tous les autres élèves. Les négatifs restent en classe. Les autres reviennent au bout de 7 jours. Mais ça ne suffit pas, estiment les épidémiologistes. Pour casser les chaînes de contamination, il serait beaucoup plus efficace de tester les enfants systématiquement, au moins une fois par semaine, comme le font les Britanniques ou les Allemands. Ce qui permet de repérer les cas plus vite et d'éviter les clusters.
Merci beaucoup Virginie pour ces explications.
Nous sommes à 4 mois pile du premier tour de la présidentielle.
Et décidément, rien ne va plus à gauche. Après le bide d'Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg a décidé de passer des coups de fil. Et pour l'instant, Vincent Derosier, ça ne répond pas.
Oui, mais il va insister, car l'heure est grave. La primaire est dans les limbes. C'est même lui qui l'a dit ce matin. Il y a le feu sur la ville et il faut sonner le tocsin. Le candidat de la remontada a donc dégainé son iPhone pour rassembler la gauche. Jean-Luc Mélenchon, le mieux placé dans les sondages d'abord. Et il a filmé tout ça. Le document que vous allez entendre est authentique.
Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié.
Voilà, répondeur, pas grave, peut-être qu'il aura plus de chance avec Yannick Jadot.
Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg, j'espère que ça va. Écoute, ça serait bien qu'on se parle, veux-tu me rappeler ? Amitié.
Non, toujours pas, peut-être que l'écolo n'a pas son téléphone avec lui, mais Anne Hidalgo, alors, elle, c'est sûr, elle va décrocher, puisque cette primaire, c'est son idée.
Bonjour Anne, c'est Arnaud, j'espère que ça va. Écoute, ce serait bien qu'on se parle, tu as mon téléphone, rappelons-nous, amitié.
Trois coups de fil, trois râteaux. Sa dernière chance, ce sera le communiste Fabien Roussel. En attendant, les internautes se régalent. Ces vidéos improbables ont été vues près de 100 000 fois en quelques minutes.
Vincent Derosier du service politique d'RTL, ça fera réagir, j'imagine, les auditeurs, Pascal. À droite, Valérie Pécresse poursuit son opération Grand Rassemblement. La candidate LR est aujourd'hui dans le Nord, aux côtés de Xavier Bertrand, Marie Mollet.
Oui, la vainqueur et le grand vaincu du congrès LR, côte à côte sur la photo ce matin dans une entreprise pépite française de la robotique. Dans les allées, Valérie Pécresse adresse quelques mots doux et du miel.
Et vous étiez nordiste ?
Non,
alsacien. Alors pourquoi vous avez choisi le Nord alors ? Parce qu'il y avait un bon président de région ?
Au micro, elle chante les vertus de son concurrent malheureux.
Xavier est indispensable à ma campagne. Il a été le premier à nous alerter, à mettre sur le devant de la scène politique la question des fractures. Cette société française qui s'abstient, cette société française des ronds-points.
Cette société française des classes populaires, en clair, hein, la cible, le vivier électoral de Xavier Bertrand. Quand Valérie Pécresse est accusée parfois d'être trop bourgeoise, trop versaillaise, alors Xavier Bertrand fera-t-il vivre une ligne sociale dans la campagne ? Lui, balai d'un revers de main.
Il faut qu'elle reste Pécresse. Il y a une vainqueur et il n'y a pas photo. Donc à partir de ce moment-là, on se met au service. J'ai bien l'intention de m'engager complètement dans cette campagne. Pas à 100%, à 200%.
Bref, pas question d'un bras de fer ni de monnayer son soutien. Suivez mon regard, contrairement à Éric Ciotti qui lui joue le rapport de force pour peser dans la campagne à venir.
Marie Mollet en direct de la banlieue de Lille pour RTL.
Valérie Pécresse désormais créditée de 17% d'intention de vote dans le dernier sondage BVA pour RTL et Orange, plus 8 points en un mois. Elle serait qualifiée pour le second tour. À qui prend-elle le plus et surtout est-ce durable? On y revient dans moins de 10 minutes avec Benjamin Sportouche.
Dans l'actualité également, Yannick Agnel, toujours en garde à vue ce midi à Mulhouse. Yannick Collin, bonjour, vous êtes sur place pour RTL. Ça fait désormais plus de 24 heures que l'ex-nageur est interrogé.
Oui, et la garde à vue de Yannick Agnel a été prolongée, hein, c'est ce qu'indique la procureure de Mulhouse. Les enquêteurs de la PJ n'ont pas fini d'interroger le double champion olympique sur ses accusations de viol sur mineur. La fille de son ancien entraîneur a déposé plainte cet été pour des faits qui auraient eu lieu en 2016, lorsqu'elle avait 13 ans. Des faits qui auraient eu lieu à plusieurs reprises, selon son témoignage. Elle faisait partie du groupe des nageuses du club de Mulhouse. Elle côtoyait les nageurs professionnels et notamment Yannick Agnel, la star du club en 2016. Le champion olympique avait également été hébergé pendant quelques mois par son entraîneur. L'entourage de Yannick Agnel qui précise ce matin que le nageur collabore du mieux possible avec la police pour établir la vérité. En tout cas, les policiers mulhousiens ont pris le temps de vérifier certains éléments après le dépôt de plainte, plusieurs mois d'enquête avant de placer Yannick Agnel en garde à vue. Des éléments sur lesquels le champion olympique va devoir apporter sa version des faits.
Yannick Collin devant le commissariat de Mulhouse pour RTL. Pierre Ménès, lui, sorti de garde à vue, l'ancien chroniqueur de Canal+, sera jugé le 8 juin prochain pour agression sexuelle sur une hôtesse du Parc des Princes. Des faits qu'il nie toujours. Et puis la France va ouvrir ses archives sur la guerre d'Algérie avec 15 ans d'avance. C'est ce qu'a annoncé ce matin Roselyne Bachelot, mesure qui s'inscrit dans la politique de réconciliation amorcée par Emmanuel Macron. On ne construit pas un roman national sur un mensonge. Voilà ce qu'a expliqué tout à l'heure la ministre de la Culture.
Ce sera l'événement sportif du week-end, le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi.
Dernier Grand Prix de la saison et un suspense à son comble. Lewis Hamilton et Max Verstappen sont à égalité de points. Mais dimanche, l'un d'eux sera champion du monde. Frédéric Veil, les premiers essais libres avaient lieu ce matin.
Oui, les premiers essais libres ont confirmé ce qu'on savait déjà. Le duel tant attendu est lancé entre les deux hommes. Meilleur temps pour Max Verstappen et seulement un troisième temps pour Lewis Hamilton à 3 dixièmes du Néerlandais. Prochaine séance d'essai libre à 14h. Ce qu'on espère maintenant, c'est un duel à la régulière dimanche après-midi sur la piste, mais là rien n'est moins sûr. On en a eu un petit aperçu d'ailleurs hier lors de la conférence de presse des deux hommes qui étaient côte à côte face aux journalistes, juste séparés par le trophée qui sera mis au champion du monde, un trophée posé entre deux. Durant une bonne vingtaine de minutes, ils n'ont pas eu un regard, pas un échange, chacun répondant tour à tour aux questions. Le Néerlandais étant sans doute le plus incisif en expliquant avoir changé d'opinion sur Lewis Hamilton et Mercedes au cours de l'année, en précisant et pas de manière positive. Ambiance. Ce qui est sûr, c'est que tout le week-end, les deux prétendants au titre vont être observés. D'ailleurs, hier, Michael Masi, le directeur de course, a bien précisé dans sa note envoyée aux pilotes que la FIA ne tolérerait aucun comportement qu'elle juge déloyal et que toute infraction au principe de la loyauté sera sanctionnée par des pénalités. Le décor est planté. Cela nous annonce donc un week-end palpitant sur la piste et dans le paddock du circuit de Yas Marina.
Ça promet, en effet. Merci à vous, Frédéric. Frédéric Veil, notre spécialiste Formule 1 ici à RTL.
La présidentielle dans une seconde, à 4 mois pile, ce sera le 10 avril, on est le 10 décembre, du premier tour. Et bien Valérie Pécresse poursuit sa percée. Malgré tout, rien n'est joué, bien évidemment. On en parle avec Benjamin Sportouche dans une seconde.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Plus 8 points en un mois. Valérie Pécresse confirme sa percée dans notre sondage BVA Orange pour RTL. Elle serait qualifiée au second tour. Plus 8 points pour la candidate LR. Zemmour, lui, recule.
Deux tiers des Français estiment qu'Éric Zemmour fait un mauvais début de campagne.
À 4 mois tout juste du premier tour de la présidentielle, ce nouveau sondage BVA pour RTL et Orange, Valérie Pécresse, vous l'avez entendu, est désormais deuxième, derrière Emmanuel Macron, mais devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. Attention, prévient toutefois Édouard Le Cerf, le patron de l'Institut BVA, il est encore trop tôt pour donner l'affiche du second tour.
Il y a des variations extrêmement fortes, il y a des proximités sur un certain nombre de candidats qui seraient l'autre candidat ou l'autre candidate qualifié pour second tour. C'est bien d'attendre un peu. Vous savez, dans notre enquête, il y a encore un électeur sur deux qui a du mal à se dire, à se projeter dans la campagne, à dire quelle est son intention de vote. On peut regarder quels sont leurs rapports de force aujourd'hui, comment politiquement les Français entendent, encore une fois, le jeu qui se met en place, ce théâtre qui est en train de se mettre en place. Tous ne sont pas encore dans le siège du théâtre.
Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour.
Chef du service politique d'RTL. Un électeur sur deux, disait à l'instant Édouard Le Cerf, qui n'a pas encore fait son choix. C'est beaucoup à 4 mois du premier tour?
Non, pas tant que ça. C'est des niveaux similaires par rapport au passé, quand on regarde les courbes, parce que les Français ne sont pas dedans. Et en plus, il y a une circonstance, j'allais dire, aggravante en ce moment. C'est qu'on a le Covid, comme vous le savez. Donc les Français sont plus préoccupés par quoi aujourd'hui? C'est trouver une dose de rappel. C'est pour ça qu'on a entendu, et ce matin, le porte-parole du gouvernement nous dire qu'il y ait des créneaux qui allaient être libérés pour qu'il y ait ces inscriptions. Et puis, bien sûr, les fêtes de Noël. Voilà. Donc, on est dans cette période-là. Il n'y a pas pour l'instant de cristallisation autour de la présidentielle. Il y a un intérêt, mais il est à peu près au même niveau que ce qu'on a donné dans le passé.
Quelle sera, à votre avis, la stratégie de Valérie Pécresse? Est-ce qu'elle va aller chercher des électeurs de Zemmour ou de Marine Le Pen, ou est-ce qu'elle va tenter de prendre des électeurs de Macron, Emmanuel Macron?
Mais écoutez, pour l'instant, ce qu'elle essaye de faire, c'est d'aller récupérer des électeurs d'Emmanuel Macron. C'est sûr qu'elle a perdu, elle sait qu'elle peut faire la différence comme ça, parce que finalement, qu'est-ce qu'il a récupéré, lui? C'est un électorat qui était un peu perdu, on s'en souvient, en 2017. Donc elle se dit qu'il y a clairement de ce côté-là un vivier d'électeurs qui peut se rapprocher de ses positions. Elle est avec, on l'a bien vu avec Éric Ciotti, plus prudente. Elle ne veut pas reprendre ses thèmes en intégralité, donc sa cible n'est pas celle-là pour l'instant. Même si,
mais
bien
c'est
évidemment,
la bonne stratégie.
On sent bien... Alors la bonne stratégie, on sait rien, on va regarder dans les sondages. Pour l'instant, ça fonctionne. Il y a
plus 8 points dans notre sondage. Elle prend un peu à tout le monde quand même.
Oui, ça fait baisser, clairement, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc de fait, c'est vrai que pour l'instant, sa cible, si c'est Emmanuel Macron, ce n'est pas complètement réussi, puisqu'on voit qu'il reste à un étiage qui est important, le président sortant. Si on avait bien écouté, en début de semaine, on a eu un reportage de Marie Mollet qui est allée se promener dans les rues de Versailles, et on a bien vu qu'il y a encore une population de droite qui est attachée à Emmanuel Macron, qui voit en lui un candidat de droite, de stabilité quelque part, et qui n'ont pas encore fait leur conversion, j'allais dire, à Valérie Pécresse. Mais ce qu'on nous dit chez les Républicains, c'est ce qu'ils sentent sur le terrain, c'est les gens du Lions Club, vous savez, du Rotary. de cette population qui était vraiment ancrée à droite, qui est allée plutôt vers Emmanuel Macron, et bien qui est en train peut-être tranquillement de revenir vers
les gens du Lions Club. Ça fait pas grand monde, hein, si vous me permettez.
Je sais pas, moi. Vous les connaissez mieux que moi, mais attendez, c'est quand même.
Si on en est rendu à aller chercher l'électorat du Lions Club et du Rotary.
Mais vous qui connaissez la France profonde, Pascal, vous savez très bien que ce sont des comités qui sont ancrés,
les notables locales,
qui sont influents, exactement.
La bourgeoisie de province.
Ben oui, bourgeoisie de province, mais qui brasse l'arche, j'allais dire, et puis qui est impliqué, qui est dans le territoire. Et donc ça, ils comptent là-dessus. Donc leur cible, elle est plutôt celle-là, et pour l'instant cet électorat est plutôt du côté d'Emmanuel Macron.
Bon, et on dit toujours prudence avec ces sondages, de toute façon effectivement on voit les choses évoluer. Les sondages de second tour, on a pu voir cette semaine notamment donnant Valérie Pécresse parfois devant Emmanuel Macron, alors ça c'est pas du tout notre sondage BVA qui ne fait pas de sondage de second tour, ça sert à quelque chose ces sondages-là ou pas?
Ben, écoutez, fut un temps et dès qu'il y avait un sondage de second tour on s'en offusquait, la commission des sondages disait, elle recommandait de ne pas en faire parce que ça pouvait troubler les électeurs. Et donc, je me souviens, il y avait des grandes polémiques. Aujourd'hui, ça paraît normal. Mais c'est très hasardeux. On n'est pas encore dans le premier tour, qu'on passe déjà au second.
Et donc, en plus, c'est serré au premier tour.
Bien sûr, et vous voyez bien les marges d'erreur. Et vous voyez bien aussi que Valérie Pécresse, elle prend 8 points. Parce que, bien évidemment, il y a un effet de début de campagne. Voilà, il y a eu... Mais ça, ce qu'ils craignent chez les Républicains, ils nous le disent. Bien, c'est la descente, c'est qu'à un moment donné, ils se disent, ça va redescendre. Donc, jusqu'où ça peut redescendre? Donc, vous voyez ce yo-yo. Il y a un yo-yo, j'allais vous dire, dans les sondages, comme il y a un yo-yo dans l'intérêt des Français. Aujourd'hui, on s'intéresse à la politique comme on s'intéresse à une série. Il y a des moments où on se dit, cet épisode est pas trop, m'intéresse pas trop, hop, je vais lâcher, je vais aller voir une autre série. Voilà comment c'est. Le yo-yo de l'intérêt des Français reflète le yo-yo qu'il peut y avoir dans les sondages.
Benjamin Sportif, Sportouche.
Oui, Sportif,
il est sportif aussi.
Mais pas dans les circonstances.
Benjamin, à la question que vous m'avez posée en entrant dans ce studio, j'ai répondu oui. Vous m'avez demandé est-ce que je peux rester avec les auditeurs. Je vous réponds oui. Je sais que vous appréciez ce contact avec les auditeurs.
Encore faut-il qu'il apprécie que je sois là.
Les auditeurs vous adorent parce que vous êtes dans les coulisses du pouvoir. Vous êtes notre antenne. Donc vous allez pouvoir nous dire ce qui se dit. Nous sommes à l'extérieur de ce monde. On le voit de très loin. Vous déjeunez avec les puissants. Donc vous nous direz tout à l'heure ce qui se dit.
Je redéjeune avec tout.
Bon, on va parler repas de Noël, dans un instant.
C'est appétissant.
12h49, à tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
On nous annonce du homard à 50 euros le kilo, au prix de gros. C'est quand même du jamais vu à Boulogne. Nous, ici, il devrait être aux alentours de 30, 32, 33 euros.
50 euros le homard, quand même.
50 euros au prix de gros, attendez, puis c'est pas fini, on n'est pas arrivé aux fêtes.
Du homard qui prend près de 20 euros le kilo en quelques jours, l'approche des fêtes fait flamber les prix. C'était le cas, en tout cas, ce matin, sur le port de Boulogne-sur-Mer. Alors, votre repas de Noël va-t-il vous coûter plus cher cette année? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Avec nous, Martial Youx, chef du service économie de RTL. Bonjour, Martial.
Bonjour.
Et Franck Hanson, notre correspondant dans le Nord. Franck, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui étiez ce matin sur le port de Boulogne-sur-Mer. Ouais. On a suivi tout ça dans RTL Matin. Et il n'y a pas que le homard qui va coûter plus cher.
Oui, les prix s'envolent aussi pour tous les crustacés en général, les tourteaux, également les langoustines très prisées en cette période. Selon l'une des poissonnières de Boulogne que j'ai croisée, la coquille Saint-Jacques devrait passer de 6 à 8 euros en moyenne le kilo. Et parmi les poissons plus demandés et plus rares, donc plus chers, la saole, les filets de saumon, ce n'est pas la spécialité chez nous, mais les huîtres ont aussi augmenté de 5% sur un an. Des chiffres qui devraient encore grimper avant le réveillon. Le homard, par exemple, pourrait atteindre 70 euros le kilo.
Et comment on explique une telle augmentation ?
Eh bien, d'abord parce qu'il y a moins de ressources en mer, pour des raisons liées à la météo, bien sûr, sûrement aussi à l'environnement. Comme partout, les charges augmentent pour ces professionnels marins, les coûts de l'énergie, de l'emballage. Un mareyeur me disait par exemple ce matin que le polystyrène a pris 16% en un an et tout cela se répercute au final sur le prix du poisson. Enfin, un effet Brexit, comme le confie Cédric Coru, célèbre pour ses saumons fumés à l'ancienne.
Le contexte Brexit a un impact direct sur nos matières premières, notamment pour tout ce qui vient d'Écosse, tout le saumon qu'on achète en Écosse. Les temps sont rallongés, en plus du Brexit vient se joindre le Covid et aussi actuellement pendant les fêtes, vous allez avoir aussi la mauvaise météo actuellement en mer qui nous provoque justement des temps de retard au niveau des livraisons.
Et attention, on peut aussi se faire plaisir avec des produits de la mer à prix raisonnable. peut-être aussi en moins grosse quantité.
Oh ben ça, c'est rassurant et c'est bon pour la ligne. En plus, merci beaucoup, Franck. Martial, les autres produits de fête, eux aussi, sont en augmentation ?
Si on prend le foie gras, par exemple. Moi, j'ai regardé les relevés de prix de France Agrimaire. Ça, c'est la bourse. C'est le prix à Rungis, si vous voulez. Le foie gras, il est en baisse, figurez-vous. Moins 7,7% cette année. Oui, il coûte 30 euros le kilo au lieu de 32,50 euros l'année dernière. Et pourtant, vous allez avoir des producteurs qui vous expliquent que les prix vont augmenter pour les fêtes. Alors, c'est vrai que les céréales qui servent de base à l'alimentation des canards ont flambé en un an, plus 65%, hein, donc plus 38,5% pardon, au niveau mondial. Mais vous avez aussi une marge qu'on prend un peu plus fortement qu'avant au moment des fêtes. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et c'est ce qu'explique d'ailleurs Philippe Everlet, qui est de la Chambre d'agriculture du Gers.
Les prix flambent un peu parce que justement c'est le marché de l'offre et de la demande. On voit que les Français ils ont envie de se faire plaisir. Hein. Moi je sens qu'on a une demande aussi forte, peut-être même plus forte que les années précédentes, pour mettre du foie gras sur la table.
Ils n'ont pas envie de se priver, les Français. Il a raison ou pas ?
Non, ils ont raison. Ça reste quand même un moment de convivialité.
Raison, mais...
Oui, mais alors j'ai quand même regardé la dernière enquête YouGov Cofidis qui donne le budget qu'on va consacrer à la table cette année. C'est 117 euros en moyenne. Donc c'est pas mal quand même.
117 euros.
Pour la famille. Alors, ça dépend évidemment combien vous êtes autour de la table.
Mais c'est une moyenne.
C'est une enquête. Ouais. Voilà, donc,
pour 4 ou 5 personnes, généralement.
Voilà,
généralement, on est peut-être plus.
On va dire qu'on est jusqu'à 6 ou 8, à peu près. Voilà.
Donc, ça fait du 15 euros par personne, à peu près.
Ce qui est pas mal. Mais ce qui est en légère baisse par rapport à l'année dernière. C'est 17 euros de moins. L'année dernière, il y avait quand même un effet. D'abord, on avait un peu d'argent. Et puis, voilà.
Le prix de la volaille, parce que c'est le chapon, par exemple, cette année.
Alors, le chapon, il est assez stable. Vous voulez que je vous fasse le petit réveillon radin?
Oui, radin malin ou pas cher?
Les deux. Radin malin.
Radin malin. Je vais vous donner des choses qui font festif, mais qui baissent un peu quand même au niveau des prix. On a parlé du foie gras. Je vais vous faire après le foie gras un petit canard, un canard au girolle. C'est sympa.
C'est
le canard, il est un tout petit peu plus cher que l'année dernière, plus 2,5%. Mais ça vous coûtera moins cher que si vous prenez de la dinde. Parce que la dinde, elle augmente de 4%, par exemple. Et alors, surtout les girolles baissent de 28% par rapport à l'année dernière. Oui, c'est une année à champignons. Ce n'était pas le cas l'année dernière. Il y a
parce qu'il y a des années à champignons.
Vous avez vu la pluie qu'il y a eu
à
l'automne. Donc là, on a des prix qui baissent. Si vous ajoutez une petite taille violette du sud-ouest, c'est toujours meilleur de goût. C'est pareil, c'est assez stable. Donc ça passe bien. Et des haricots verts du Roussillon. Parfait. Là, vous êtes sur un tarif à peu près stable.
Évitez il n'y a les pas de dessert dans votre dîner.
Attendez, j'y viens, j'ai le fromage avant. J'ai le fromage avant quand même. Mais évitez les marrons. Évitez les marrons, parce qu'eux, ils ont pris 11%. le plateau de fromage. Allez, le plateau de fromage, je vous mets un petit brie de Meaux et un crottin de Chavignol. Ça n'a pas bougé depuis un an. Mmh. Mais en revanche, je vous évite le Saint-Nectaire fermier et le reblochon, parce que là, les prix ont augmenté de 6 à 9% depuis Noël dernier. En dessert, vous pouvez aller sur le chocolat. Chocolat stable par rapport à l'année dernière. Si vous voulez faire léger, clémentine de Corse, c'est en baisse, c'est très bon, c'est meilleur que les autres clémentines évidemment, et ça fait un dessert léger pour finir.
C'est oui, clémentine, c'est vrai que c'est bon, c'est parce que
vous aurez grand-mère qui vous dira, moi de mon temps, on avait toujours une orange ou une clémentine.
C'est vrai.
À Noël.
Et puis la clémentine, ça laisse sur les doigts une odeur merveilleuse, l'odeur
c'est
de Noël. Donc il faut manger des clémentines. C'est bien. On boit pas dans votre
manifestement.
On boit l'eau minérale dans votre affaire. C'est un dîner.
Du robinet.
Exactement, l'eau du robinet.
Non, si vous prenez des vins de Bourgogne, par exemple, là, ça augmente de 10 à 15%.
Ah oui.
C'est ce que disent les professionnels.
Oui.
Parce que souvenez-vous, vous avez quand même eu le gel au moment de la récolte de septembre, et donc les prix ont tendance à augmenter.
Le 117 euros pour 5 ou 6 personnes, c'était 20 compris ?
C'était c'est le budget,
Mais c'est important de le dire, parce qu'il y a toujours un peu de champagne, généralement, à Noël, pour ouvrir ou pour fermer.
Oui, on peut. Ou alors vous prenez un prosecco, c'est moins cher.
Un prosecco,
c'est italien, c'est un vin pétillon italien. C'est ce qui sert pour le spritz. C'est tendance, ça, c'est mode.
Vous connaissez le spritz?
Le spritz, Marc Spritz.
Non, le spritz, c'est l'apéritif orange.
Non, j'ai entendu
branché,
le nom. Voyez. J'ai entendu, mais celui que vous venez de dire.
Prosecco.
Oui, ça m'est. Je ne connaissais pas. Il est 12h59. On va marquer une pause et on va parler. tout à fait différemment d'Éric Zemmour hier soir en tout cas il a échangé avec Bruno Le Maire et beaucoup d'auditeurs nous appellent. Merci Martial.
Je vous en prie.
On viendra donc chez vous avec Amandine et le soir de Noël.
Du canard.
Parce qu'on ne sait, on fera du canard et des haricots verts du Roussillon.
Bah oui, tant qu'à faire.
À tout de suite.
RTL.
Il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole.